Le journal vous est présenté par Pierre Gandus.
Freddy Ethan, bonsoir.
Bonsoir, Pierre Gandus.
Freddy Ethan, Idan Alexander a retrouvé sa famille à l'heure où nous parlons?
Oui, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion et un grand suspense que nous avons suivi en direct sur toutes les chaînes de télévision donc la libération d'Idan Alexander. C'est un jour, évidemment, une journée qui nous réconforte et qui, hélas, n'a pas libéré, évidemment, tous les autres otages. Il faut rappeler qu'il y a aujourd'hui, selon des informations presque sûres, une vingtaine de vivants. Et il y a trois personnes, trois otages qu'on ne sait pas exactement s'ils sont vivants ou décédés. Et il reste encore 35 donc qui ont été tués, soit le 7 octobre, soit plus tard dans les tunnels. Et donc c'est pour nous évidemment, mais faut le rappeler aussi, il s'agit d'une libération d'un citoyen aussi américain.
Alors, donc, justement, Freddy Ethan, est-ce que, parce qu'on ne sait pas si il y a une contrepartie à cette libération, elle s'est faite de façon assez discrète, on n'a pas assisté au barnum habituel organisé par le Hamas pour la libération des otages. Alors, on ne sait pas s'il y a des contreparties, mais la question que je veux vous poser, c'est s'il n'avait pas été américain, est-ce qu'il aurait été libéré, Idan Alexander?
J'y crois pas, mais il faut dire deux choses. D'abord, il n'y a pas eu de contrepartie, parce que dans un communiqué officiel, Benjamin Netanyahu, qui a eu une conversation d'ailleurs téléphonique en présence de Vinkov, qui est l'envoyé spécial donc pour régler donc la libération des otages et qui est à Jérusalem encore. Et il faut dire que Netanyahu dit cela a été Idan a été libéré grâce à la présence armée et donc à la force de Tsar. Et donc, il n'y a pas eu de contrepartie et il n'y a pas eu non plus d'échange, c'est-à-dire une libération totale. Mais c'est une, je dirais, un petit succès du Hamas parce qu'il a séparé, si vous voulez, d'une part, les otages en préférant les Américains. Et il sait pourquoi. Et les Américains, il ne faut pas oublier, demain seront à Riyad et Mahmoud Abbas va rencontrer donc aussi Donald Trump. Donc tout cela n'est pas seulement concernant les otages, mais la marche à suivre, comment ça va se passer pour obtenir, et c'est là le Hamas, pour obtenir un cessez-le-feu, ce que Netanyahu refuse.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure le nombre d'otages encore vivants. Moi, j'aimerais vous poser cette question, Freddy Ethan. Comment se fait-il que l'épouse du Premier ministre connaisse le nombre d'otages vivants à tel point qu'elle souffle à l'oreille de son mari, elle le reprend, non pas 24, mais c'est moins, que le président américain connaisse le nombre d'otages encore vivants et que ni les familles, ni le premier ministre de l'État d'Israël ne connaissent le nombre d'otages encore vivants?
Non, il ne savait pas. Il faut dire qu'il y avait, avant la libération, il y avait 24 otages. Avant la libération d'Alexander, il y avait 24 otages. Et donc, sur 3 des 24, on ne savait pas s'ils sont vivants ou pas, et on n'avait aucune information là-dessus. Et c'est pour ça qu'on dit moins de 24, c'était moins que 24, et non pas, on ne savait pas exactement le chiffre exact. Et c'est très difficile de le savoir, parce que certains otages sont dans des familles, et d'autres sont dans des tunnels. Donc on ne sait pas exactement, et ils sont pas tous du Hamas, ils sont une partie du djihad islamique. Donc c'est compliqué, mais cela veut dire par là qu'elle est évidemment dans le secret, et je dirais que c'est un peu normal, quand il y a les rencontres des familles des otages, elle est toujours avec Netanyahu. C'est une autre histoire, et ça c'est quelque chose d'anecdotique plutôt que d'une façon beaucoup plus sincère, et je dirais beaucoup plus importante. L'important c'est de libérer tous les otages, et c'est ça l'importance. Et là, Netanyahu veut faire ce que Witkoff veut, c'est-à-dire La feuille de route de Minkoff, c'est dire d'abord libérer une dizaine d'otages, puis un cessez-le-feu, et dans une vingtaine de jours, libérer le reste. Donc il y a là une situation où on ne sait pas si le Hamas va accepter, parce que le Hamas, entre nous, n'acceptera pas la libération de tous les otages sans un cessez-le-feu, ça c'est clair. Et donc Netanyahou a une marge de manœuvre jusqu'à le retour de Trump des Émirats donc et d'Arabie Saoudite. S'il n'a pas réussi, et il envoie demain le chef du Mossad à Doha, donc pour poursuivre les négociations. Et c'est ça qui est important aussi, c'est-à-dire il y a une reprise des négociations pour la libération des autres otages. Je suppose, hein, je dis bien, je suppose que Netanyahou acceptera donc ce que Winkoff va réussir à apporter du côté du Hamas. Et là, il y a une situation qui, je crois aussi, que Netanyahou ne voudra pas un cessez-le-feu, mais il sera imposé par Trump. Et donc Netanyahou n'aura pas le choix de recevoir ce diktat de Trump, parce que Trump, entre nous, a ras-le-bol donc de cette affaire, parce que depuis le 20 janvier, il a rencontré Netanyahou deux fois, il a eu des conversations téléphoniques, Netanyahou lui a promis qu'on va régler l'affaire très rapidement, et le dossier est toujours brûlant.
Alors, ce diktat dont vous parlez, l'imposition par Trump d'un cessez-le-feu, va provoquer la colère de certains ministres de la coalition de Trump. Je pense à Ben-Gvir et à Smotrich. Ouais. Smotrich qui a fait une déclaration, alors je vous le dis, elle est reprise ici en France, ça sert personne. Quand il dit on va raser Gaza en surface et au sous-sol, que ce soit Ben-Gvir ou Smotrich, deux ministres qui n'ont même pas fait leur service militaire en Israël et qui se permettent ce genre de déclarations qui font non seulement du mal à Israël, mais qui font du mal aux différentes communautés à travers le monde, des communautés juives. Il faut que vous le sachiez en Israël.
Non, mais on le sait. Comment si on le sait? Écoutez, ces deux personnages n'ont pas leur place dans cette coalition. Et vous l'avez mentionné, ils n'ont pas fait leur service militaire et tout cela. Netanyahou est pris en otage, je dirais, entre guillemets, dans cette coalition, mais il veut survivre. Mais d'un autre côté, il comprend aussi que s'il veut être l'homme providentiel et l'homme qui apporterait demain une normalisation avec l'Arabie Saoudite et peut-être avec la Syrie, on ne sait pas. Parce que Trump vient de déclarer qu'il lèverait les sanctions. Il lèverait les sanctions contre la Syrie. Et il va rencontrer Al-Shara. Mais Macron l'a rencontré déjà. Donc il y a aussi une connivence entre Macron et Trump dans cette affaire et entre l'Europe et l'Amérique, pour effectivement relancer donc le dialogue avec la Syrie, le nouveau maître de la Syrie d'une part, avec l'Arabie Saoudite une normalisation, mais il faut dire aussi, et ça c'est clair, Trump est d'abord le président des États-Unis. C'est les intérêts américains qui le concernent. Et là, il va faire des deals, comme on dit, et il va faire des business. C'est-à-dire, il y aura des milliards de dollars qui sont en jeu, il y aura des contrats signé avec l'Arabie Saoudite. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il va permettre à l'Arabie Saoudite de se doter de l'énergie nucléaire. Et donc, quand on sait exactement ce qu'il va dire aussi aux Iraniens, vous pouvez, pour des fins pacifiques, soi-disant pour les Iraniens, de se doter de l'énergie nucléaire, et là, ça devient dangereux pour Israël, ça devient dangereux pour la prolifération donc du Moyen-Orient en armes nucléaires. L'Égypte va le demander aussi. La Turquie et d'autres pourront éventuellement demander cette arme nucléaire, et ce qui est très grave pour la situation actuelle.
Freddy Etan, un dernier mot, il nous reste une minute. Est-ce que Donald Trump, dans sa tournée moyen-orientale, va s'arrêter en Israël ou pas?
Non, il ne va pas s'arrêter, et peut-être il ira en Turquie. Comme vous le savez, il y a des avancées en Turquie concernant l'Ukraine.
Freddy et Dan, merci d'avoir été en direct avec nous sur Radio Shalom, avec toujours cette précision dans les informations que vous détenez. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate israélien. Merci, bonsoir.
Bonsoir Pierre.